Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Merci de nous rejoindre ce jeudi 11 mars 2010. C'est la journée mondiale du rein. En RDC, on estime environ 12% les personnes qui souffrent de maladies rénales. Pour cette année, le thème retenu est le rein et le diabète. Agir maintenant ou payer plus cher demain. Que faire pour prévenir les maladies du rein? Nous en parlons avec le docteur Nseka Mangani, qui est chef du département de médecine interne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour, madame.
Alors, quel est le rôle des reins pour commencer cette émission?
Ben, le rein a plusieurs rôles dans l'organisme, des rôles même tout à fait vitaux, parce que sans le rein, il n'y a pas de vie. Alors pourquoi est-ce que le rein aide à vivre? Le rein aide à vivre parce que c'est l'organe qui permet premièrement de maintenir constante la teneur en eau et en sel dans l'organisme. Bien sûr, peut-être que ce n'est pas très bien compréhensible par le grand public, mais si vous pouvez savoir que 60% du poids de votre corps est constitué de l'eau. Mm-hmm. Oui, 60% du poids de notre corps est constitué de l'eau, et donc notre corps c'est essentiellement de l'eau. Et cette eau-là doit pouvoir rester constante dans le corps, et c'est le rein qui règle cette teneur. Deuxième rôle du rein, le rein c'est l'organe le plus important, de loin le plus important, qui aide à l'élimination des déchets du métabolisme. Donc si le rein ne fonctionne pas bien, il y a rétention de ces déchets dans le corps, empoisonnement du corps et donc perturbation terrible de fonctions vitales. Un autre rôle c'est l'élimination de produits acides. Notre corps fabrique des produits acides et ces acides doivent être éliminés. Et c'est le rein qui est la voie principale d'élimination des acides. Mm-hmm. Encore, à part ces trois rôles qui sont des rôles tout à fait vitaux, il y a d'autres rôles qui ne sont pas secondaires mais très importants aussi. C'est par exemple la fabrication d'une hormone, fabrication des hormones. Il y en a en principe trois. La première, c'est celle qui aide à la fabrication de globules rouges, donc à la fabrication de globules, au maintien du taux d'hémoglobine. Mm-hmm. L'autre hormone va servir à la régulation de la tension artérielle. Et enfin, la troisième hormone va servir, c'est la vitamine D, elle va servir à la solidification de nos os.
Alors, quelles sont les complications des reins que l'on enregistre le plus souvent en RDC?
Ben, c'est-à-dire, en fait, quand il y a une insuffisance rénale, vous aurez des complications en rapport avec les fonctions qu'assume le rein. Donc, par exemple, par rapport à la fonction de maintien de la teneur en eau et des sels dans le corps, la personne va gonfler. Elle va gonfler, elle va présenter une hypertension artérielle avec toutes les complications au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Bon, la personne va présenter de troubles au niveau du cœur, donc de l'eau autour de l'enveloppe du cœur. Mm-hmm. La personne va présenter ce qu'on appelle une encéphalopathie, donc une atteinte du système nerveux central à cause de l'intoxication de déchets. Et cette complication va amener jusqu'au coma et à la mort, bien sûr. Mm-hmm. Alors, par rapport à la régulation par rapport à la régulation de l'eau et des sels, donc j'ai dit la personne va gonfler. Par rapport mm-hmm. à l'élimination des déchets, comme j'ai dit, il va avoir une intoxication généralisée. Et par rapport à l'élimination des acides, ben, on va avoir un état qu'on appelle l'acidose avec une respiration assez difficile qui amène aussi à la mort. Et par rapport aux fonctions endocriniennes, s'il n'y a pas de fabrication de globules rouges, on va avoir l'anémie. Et effectivement, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, beaucoup mmh. souffrent d'anémie.
Alors, docteur Nseka, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes chef du département de médecine interne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vous avez parlé de termes assez compliqués hein, pour nous. Vous savez qu'on nous suit dans l'arrière-pays. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas, par exemple, l'eau, le phénomène de l'eau autour du cœur, comment est-ce qu'on peut reconnaître que l'on souffre d'une maladie rénale? simplement possible. Quels sont les symptômes à part gonfler, ça on l'a compris, mais oui. Pour le cœur, comment est-ce qu'on va le ressentir?
Oui, je comprends, mais je vois que ce qu'il y a à retenir, c'est que le maladie des reins, en principe, ne donne pas de symptômes. Des symptômes, des signes que le malade peut sentir. Mm-hmm. Hein, c'est quand on a beaucoup évolué, quand on arrive à un stade très avancé, que vont apparaître les symptômes. Donc c'est très important pour notre population de savoir que le maladie des reins, ce sont des maladies qui peuvent rester très longtemps sans symptômes. Alors comment savoir qu'on souffre quand même de ces reins? On va le savoir par exemple par des examens tout à fait simples, examen de l'urine, hein, à la recherche de protéines, à la recherche du sang dans l'urine. L'examen du sang, par exemple, à la recherche, on dose la créatinine, on dose l'urée, parce que la créatinine et l'urée, ce sont des paramètres qui permettent d'évaluer la fonction du rein. Et ça, on peut faire dans beaucoup de laboratoires dans notre pays, même à l'intérieur. Le tout premier examen, c'est l'examen le plus courant, l'examen de l'urine. Ben, on le fait partout, mm-hmm. hein, partout. Quand la femme est enceinte, qu'elle va en consultation, on dose l'albumine, on met A plus ou A négatif donc, en fonction de résultats. Donc ce sont des tests que l'on peut faire partout. Et c'est là justement l'importance de l'éducation de la population, que les gens sachent que le maladie des reins, ce n'est pas comme les maladies du cœur ou du poumon qui vont vous donner des symptômes, qui vont vous amener chez le médecin. Mm-hmm. Mais les maladies des reins, au contraire, elles sont généralement sans symptômes. Et quand les symptômes vont apparaître, c'est qu'on est déjà très très avancé dans la maladie.
Vous avez des questions, vous pouvez les poser en nous appelant au 081 890 63 94 ou nous envoyer un SMS au 081 070 20 50. Docteur Nseka, quelles sont les causes des troubles rénaux? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est une malformation? Est-ce que c'est congénital? Ou encore c'est une maladie qu'on acquiert avec l'âge ou dans la vie?
Oui, tout ce que vous dites là, c'est vrai, mais nous pouvons mieux systématiser les choses en disant que y a deux types de défaillances terrain. Il y a un premier type qu'on peut dire passager. Hein, donc réversible, vous avez ça et puis après ça passe et vous récupérez complètement la fonction de rein. Alors l'autre type qui est le plus dangereux, si vous voulez, c'est un type, c'est le type chronique. Donc la maladie est là et va vous amener irréversiblement vers la mort. Alors pour le premier type qui est le type passager, les causes sont des causes très fréquentes comme la malaria. Hein, donc les infections, en premier lieu, la malaria, la fièvre typhoïde, les septicémies. Alors un autre grand groupe de causes, ce sont les médicaments. Mm-hmm. Hein, les médicaments pharmaceutiques, comme les produits traditionnels également, sont très incriminés dans la genèse de, disons, comme cause de l'insuffisance rénale aiguë, donc passagère. Et après, nous avons toutes les autres causes de perte d'eau et du sang dans le corps. Par exemple, une personne qui a beaucoup vomi, ou qui a fait une diarrhée importante, ou qui a uriné de manière très abondante, ou qui a transpiré de manière excessive, toutes ces conditions-là peuvent entraîner une défaillance réversible passagère des reins. Mm-hmm. Voyez, une personne qui est blessée suite à un accident ou un accouchement, qui perd énormément du sang, ben cette personne-là également, il est dans une condition qui peut entraîner une défaillance passagère du rein. Donc ça, c'est pour le premier type où nous avons une défaillance passagère. Mais l'autre grand type, c'est quand on a une défaillance permanente. Alors dans ce cas-là, le trois causes les plus importantes, des lois les plus importantes, vous avez le diabète sucré, mm-hmm. l'hypertension artérielle, et puis vous avez le maladie qui touche la partie du rein qui filtre le sang, qu'on appelle le glomérulonéphrite. Donc ça, ce sont les trois causes les plus importantes. Mais à côté de celles-là, il y a d'autres causes, par exemple héréditaires, comme la maladie polycystique, donc des gens qui ont des reins, qui sont nés avec des reins, si vous voulez, transformés en kystes. Mm-hmm. Et ça, c'est une maladie génétique héréditaire la plus fréquente, et il y en a chez nous. Hein, nous avons dans notre pays des gens qui en souffrent.
Docteur, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et nous allons les prendre juste après ça.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Et nous allons commencer avec l'ingénieur Joël qui nous appelle depuis Baraka. Bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour Joël.
Oui, bonjour. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir et poser la question à monsieur le docteur. Comment prévenir les maladies qui attaquent le rein souvent et quel type de médicaments appropriés pour prévenir cette maladie?
Docteur.
Merci bien, monsieur. La prévention, vous comprenez, si vous avez bien suivi les deux types d'atteinte rénale dont j'ai parlé, donc il y a les types passagers ou insuffisance rénale aiguë et puis les types chroniques ou définitives, l'insuffisance rénale chronique. Chaque type a ses causes et donc la prévention c'est en par rapport aux causes. Nous avons dit que pour les types passagers, donc l'insuffisance rénale aiguë, nous avons parlé de causes infectieuses comme la malaria. Donc la prévention de la malaria ipso facto amène à la prévention de la complication rénale due à la malaria. La prévention de la fièvre typhoïde entraîne ipso facto la prévention de la survenue de l'insuffisance rénale aiguë. Nous avons parlé également des médicaments comme cause d'insuffisance rénale passagère. Donc dans les médicaments, il y a, par exemple, des antibiotiques de la famille des gentamicines. Nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens, des médicaments que les gens utilisent beaucoup ici. Nous avons les produits de contraste, les produits qu'on injecte par la voie intraveineuse si on veut faire certains types de radios. Donc, nous devons savoir que si nous avons une infection qui devrait être traitée avec la gentamicine, nous devons respecter, le médecin doit respecter la dose et la durée du traitement. Donc ça fait partie de la prévention également. Nous avons parlé des anti-inflammatoires dont on abuse. Vous devez savoir que ces anti-inflammatoires sont toxiques pour les reins. Donc quand vous les utilisez à tort et à travers, vous vous exposez aux atteintes rénales. Nous avons parlé des médicaments traditionnels qui peuvent également entraîner une atteinte passagère des reins. Donc ceux qui abusent des médicaments traditionnels s'exposent aussi aux atteintes rénales. Ça c'est le premier type. L'autre type, nous avons, c'est le type définitif ou insuffisance rénale chronique. Là, nous avons parlé de l'hypertension artérielle, du diabète sucré et des atteintes glomérulaires. Pour l'hypertension artérielle, la prévention, on va peut-être en parler, mais on peut déjà en parler déjà maintenant. La prévention de l'hypertension artérielle, c'est bien sûr le régime. Le régime et le mode de vie. Nous avons une alimentation pour le moment très très riche en sel, en sucre, en graisse, et peu riche en fibres. Donc nous devons changer de mode d'alimentation. Nous avons un style de vie qui est caractérisé par le sédentarisme, c'est-à-dire on est à la maison, on est assis, on est tout à bord au lit, et puis on s'assied sur la table, on monte à la voiture, on vient au service on est assis sur la chaise, on travaille devant l'ordinateur, et quand on a fini, on monte de nouveau dans la voiture, on arrive à la maison, donc on fait très peu d'exercices physiques. Tout ça, ce sont de mesures de prévention d'hypertension artérielle et du diabète sucré.
Il faut faire un peu plus de sport?
Oui, c'est ça. Donc, il faut bouger. En fait, on ne dit pas qu'il faut faire, qu'il faut être comme, je ne sais pas...
Des athlètes, des professionnels.
Oui, pas ça, mais la marche. Mm-hmm. La marche à pied, il faut marcher, on recommande 50 à 60 minutes chaque jour, donc ça suffit. Ça c'est une manière de prévenir. Une autre manière de prévenir, bien sûr, c'est la détection précoce. Vous voyez, les diabètes comme l'hypertension, surtout les diabètes du type 2, vous pouvez avoir le diabète et sans le savoir que vous avez le diabète. L'hypertension, ça c'est connu, vous souffrez d'hypertension, vous ne saurez pas que vous souffrez d'hypertension. Donc ce sera très important de pouvoir faire examiner sa tension artérielle, de faire examiner de temps en temps le taux du sucre pour savoir si on est diabétique ou hypertendu.
Voilà, nous allons prendre les questions de deux autres auditeurs. On va les prendre en même temps et puis on va vous laisser le temps de répondre. Nous avons Yves Laou qui nous appelle de Kinshasa et nous faisons un coucou à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la 103.5. Bonjour Yves.
Bonjour. En fait, là, j'avais une question à poser au docteur Nseka. Bon, je crois que à la lumière de ce qu'il a dit, j'ai peut-être obtenu certaines réponses. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut, parce que les maladies des reins ne présentant pas des signes dès le départ, je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'en préserver? Et y a-t-il un besoin, autre chose, y a-t-il un besoin alors, dans ce cas-là, de pouvoir de manière fréquente pouvoir faire des examens, se faire examiner, parce qu'il a parlé d'examens d'urine, ainsi de suite. Est-ce qu'il est important de pouvoir le faire même quand on n'est pas malade? Et s'il y a lieu, à partir de quel âge?
Voilà, on va prendre directement Philippe Ngoma, qui lui aussi nous appelle de Kinshasa. Bonjour Philippe.
Bonjour madame. Oui, ma question est la suivante. Bonjour docteur. Ma question est la suivante, c'est que j'ai un frère qui souffre d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale. Et cela a été dû à une hypertension artérielle. Et je voudrais savoir, puisque tous ces dossiers, tout le dossier médical dit qu'il lui faut absolument une transplantation, sinon rien d'autre. Est-ce qu'ici à Kinshasa, les transplantations peuvent être faites, s'il y a des formations médicales qui peuvent le faire? Et je voudrais dire aussi au docteur que depuis un certain temps, ça fait une semaine, qu'à chaque matin, nous le voyons le matin, réveillé, un peu gonflé. Mais j'ai tout de suite compris que c'était le problème d'eau. Mais je voudrais savoir si ici à Kinshasa, les transplantations sont possibles. Merci docteur.
Alors,
je commence à répondre à Monsieur Philippe.
Oui.
La transplantation n'est pas encore possible à Kinshasa. À Kinshasa, il y a moyen de faire la dialyse péritonéale. Qui est réalisé dans notre service au clinique UBC de Kinshasa, mais il y a également l'hémodialyse qui peut être réalisé dans un centre privé à Ngaliema Saint-Air. Mais nous organisons, nous nous battons pour que notre pays puisse à l'instar des autres pays, à l'instar du Soudan, à l'instar du Cameroun, que nous puissions également, pour ne pas parler de l'Afrique du Sud, pour ne pas parler du Kenya, que nous puissions également réaliser des transplantations rénales. Alors, le premier monsieur Monsieur Yves, pour Monsieur Yves, et bien sûr qu'il est important de pouvoir être compte tenu du fait que les maladies des reins sont asymptomatiques. Donc j'insiste là-dessus, il faut que notre population comprenne que le maladie des reins, c'est tout à fait différent des maladies du cœur, des maladies d'estomac, des maladies du poumon, des maladies des dos. Ne vous attendez pas à avoir des symptômes. Non, il n'y aura pas de symptômes. Vous aurez votre maladie, vous allez évoluer avec votre maladie sans savoir que vous êtes malade, et quand vous allez commencer à voir les symptômes, c'est déjà un stade très avancé. Alors c'est ainsi qu'il est vivement recommandé de procéder à des check-up. Tout le monde fait des check-up dans notre pays. Vous pouvez les faire une ou deux fois l'an, c'est bien recommandé, et on peut le faire n'importe où dans notre République. On peut faire un examen de l'urine pour chercher l'albumine, pour chercher le globule rouge, et on peut faire un examen du sang, doser la créatinine et l'urée, pour voir si les reins fonctionnent bien.
Il a demandé à quel âge, à partir de quel âge?
Ah oui, merci bien. Les maladies des reins, c'est tous les âges, tous les âges. Mais il est vrai que les maladies des reins sont plus fréquentes quand même chez l'adulte que chez l'enfant. Donc, c'est plus recommandé chez l'adulte de faire à partir de 18 ans, de pouvoir réaliser une ou deux fois l'an un examen d'urine. Et nous-mêmes, dans notre service de néphrologie, nous menons depuis l'an 2007, nous menons des campagnes de dépistage et de détection précoce d'hypertension, diabète, atteinte rénale et obésité. Nous nous battons encore cette année, nous n'avons pas encore trouvé les moyens, et c'est aussi pour moi l'occasion de lancer un appel à de bonnes volontés, parce que nous voulons réaliser cette année rééditer la campagne de détection. Je crois que beaucoup de gens me suivent qui ont bénéficié de cette campagne et qui réclament la campagne. Nous sommes bien disposés à la faire, mais elle nous coûte cher, et c'est ainsi que j'en profite pour lancer un appel à des bonnes volontés pour nous soutenir.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94 ou nous envoyer un SMS au 081 070 20 50. Et nous allons prendre Marie Bernard, nous appelle d'Issiro en province orientale. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour docteur.
Bonjour madame.
Je voulais demander au docteur, en fait, on entend souvent dire que les reins sont bloqués. Je voulais savoir, ça bloque avec quoi? Et puis, des fois, on nous dit il y a la présence des cailloux. C'est quel type de cailloux et ça provient d'où?
Merci bien, madame. Quand on dit les reins sont bloqués, en fait, on veut dire, ça c'est l'expression tout à fait vulgaire, populaire, pour désigner l'insuffisance rénale. Hein. Donc, quand je parle d'insuffisance rénale ou de perturbation passagère ou définitive de la fonction du rein, ça sous-entend donc de manière populaire, ça veut dire donc sur le plan populaire le rein bloqué. Donc quand le rein peut être bloqué, comme j'ai dit, de manière passagère, et là il s'agit de l'insuffisance rénale aiguë dont je citais les causes. Le rein peut être bloqué de manière définitive, il s'agit de l'insuffisance rénale chronique dont les causes, on a cité l'hypertension, le diabète et l'atteinte glomérulaire. Quant au caillot, oui, c'est un mot qui désigne en fait ce qu'on appelle la lithiase. En médecine, on appelle ça la lithiase. Ce sont effectivement des cailloux, donc des sortes de pierres qui sont formées dans le rein pour plusieurs raisons, des causes qui peuvent être, si vous voulez, les causes sont généralement interne, donc il va avoir une perturbation des métabolites, donc d'une substance qui va se retrouver dans les urines en grande quantité et des urines qui vont présenter également des conditions de précipitation de cette substance et alors vous avez la formation des cailloux.
Alors nous allons prendre un autre auditeur qui nous appelle depuis Bounia. Bonjour Modette.
Oui, allô.
Oui, nous vous écoutons, posez votre question.
Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Oui, oui. Moi, je voulais savoir que, comme je n'ai jamais vu cette maladie, alors comment je peux savoir que j'ai cette maladie? Et quelles précautions je dois prendre pour ne pas avoir cette maladie? En plus, mon ami est ici à côté de moi, il m'a dit de poser cette question. Il a dit que, quelles sont les conséquences du côté positif et du côté négatif de cette maladie? Quelles sont les conséquences du côté positif et du côté négatif de cette maladie?
Oui. Merci bien, M. Modeste. Je commence par la question de votre ami. Mmh. Quelles sont les conséquences positives ou négatives de cette maladie? Bon, la conséquence négative, c'est que quand on a les substances rénales, j'ai dit que le rein, c'est un organe qui joue un rôle vital dans l'organisme. Donc, si les reins sont bloqués, comme avait dit la précédente dame, si les reins sont bloqués, bon, on va tout droit à la mort, hein, ça n'a rien à faire. Alors, les conséquences positives. Bon, les conséquences positives, bon, une maladie, c'est par rapport à la manière dont on la vit et par rapport, j'entre dans un domaine un peu philosophique, quand on a une maladie ou un malheur quelconque, je crois que le plus important c'est de savoir cette maladie vous ouvre sur quelle fenêtre d'opportunités, de services à autrui. Mais ça, c'est sur un plan philosophique.
Mm-hmm. Ouais. Je pense pas que ça soit très très bénéfique, en tout cas, d'avoir une maladie. Docteur, je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, que par exemple, les gens qui ne faisaient pas beaucoup de sport, donc tous ceux qui évoluent dans les milieux professionnels, sont exposés à certaines maladies, comme par exemple
le diabète, l'hypertension, oui, l'obésité.
Non, mais pour ceux qui sont, par exemple, qui travaillent dans des bureaux à longueur de journée, qui sont devant des ordinateurs, ou bien les chauffeurs qui sont toute la journée dans leur véhicule, est-ce qu'ils sont plus exposés à des maladies rénales?
Bon, pas directement aux maladies rénales, hein? Mm-hmm. Pas directement aux maladies rénales, mais quand on ne bouge pas assez, on est exposé à des troubles comme l'obésité qui est une voie pour le diabète, qui est une voie pour l'hypertension artérielle.
Mm-hmm. Vous avez également parlé de la malaria et la typhoïde, des maladies qui sont très fréquentes ici. Sous les tropiques, c'est quand même un peu compliqué de ne pas avoir la malaria ici. Alors, est-ce qu'il faut bien soigner? Le fait d'avoir des répétitions, des malarias par répétition, ça nous expose à des maladies rénales?
Oui, ce n'est que pour la bonne prévention de la malaria, ce n'est pas les traitements préventifs, mais c'est le changement, l'amélioration de l'environnement, vous voyez. Mm-hmm. partout où l'environnement a dû être changé, donc une meilleure salubrité de l'environnement, on a vu disparaître la malaria. Donc, nous devons, tout en soignant la malaria, tout en donnant des traitements préventifs médicamenteux, nous devons surtout et surtout assainir l'environnement. Parce que si nous assainissons l'environnement, à ce moment-là, nous créons des conditions tout à fait néfastes, nocives, néfastes pour les anopheles.
Et nous allons prendre ce dernier auditeur pour cette tranche. Il s'agit de Jules et il nous appelle depuis Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à Radio Quartier, bonjour à tous les auditeurs. Oui, ma question est la suivante. Devant un cas d'insuffisance rénale chronique, quelle sera la conduite à tenir? C'était ma préoccupation.
Bon, quand quelqu'un a une insuffisance rénale chronique, bien sûr, la chose qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire, c'est rester chez elle. Il faut qu'il consulte le médecin et mieux encore, il faut qu'il consulte les spécialistes. En fait, tout dépend, parce que l'insuffisance rénale chronique, nous devons savoir qu'il y a plusieurs gradations. Hein, donc, quand on dit insuffisance rénale chronique, ce n'est pas qu'on est déjà au stade terminal. Il y a plusieurs stades. Alors, quand on est au stade 1, c'est-à-dire, mettons, au stade d'insuffisance rénale modérée, qu'on appelle stade 3, ben, quand on est à ce stade-là, il faut absolument consulter les médecins, n'importe où, même là où vous êtes à Kisangani. Et l'objectif de la prise en charge médicale, c'est de tout faire pour ne pas aller vers les stades plus avancés, stade 4 ou le stade 5. C'est-à-dire que quand on est au stade 3, on doit pouvoir traiter les troubles que vous avez. Si vous avez une perte de protéines dans les urines, on doit pouvoir traiter ça. Si vous avez une hypertension artérielle, on doit pouvoir traiter l'hypertension artérielle. Si vous avez déjà l'anémie, on doit pouvoir corriger l'anémie. Si vous avez le diabète, on doit pouvoir bien contrôler le diabète. Si vous avez beaucoup de lipides dans le sang, il faut qu'on puisse traiter ces lipides. Et bien sûr, si vous fumez, il faut arrêter de fumer. Donc, l'insuffisance rénale, tout dépend du stade. Si donc on est au stade intermédiaire, l'objectif du traitement sera de tout faire pour que on ne bascule pas à un stade plus avancé. Mais si on arrive au stade 5, donc le stade qu'on appelle stade terminal, là, il n'y a pas autre chose à faire que la dialyse ou la transplantation rénale.
Alors une dernière question, c'est par rapport à l'élimination des déchets. Est-ce que le fait de boire beaucoup d'eau, est-ce que ça peut réduire le taux auquel ou bien ça peut réduire notre exposition à des maladies rénales?
Je dis tout de suite que j'ai toujours déconseillé la cure d'eau.
Mm-hmm.
J'ai toujours déconseillé la cure d'eau. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la cure d'eau, Vous ne savez pas comment fonctionnent vos reins. Alors, si vos reins ne fonctionnent pas bien et que vous prenez la cure d'eau, ben, vous aggravez les choses. Cette eau que vous prenez en excès ne sera pas éliminée. Vous allez gonfler et vous allez entraîner d'autres troubles. Mais ce qu'on conseille...
Ça, c'est pour les gens qui souffrent déjà de troubles rénaux?
Mais vous ne savez pas, madame, si vous en souffrez.
Ah. Donc, l'eau, ce n'est pas un remède?
Non. Ce que nous conseillons, c'est de boire suffisamment selon votre soif. Vous voyez,
mm-hmm.
Si vous avez soif, ben, buvez suffisamment. Mais pas la cure d'eau comme à un moment donné, c'était la mode ici.
Merci beaucoup, docteur Nseka Mangani. Nous rappelons que vous êtes chef du département de médecine interne aux cliniques universitaires de Kinshasa. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci bien, madame. Au cap.